Le journal est présenté par Margot Steve.
Bonsoir à tous. La douche froide américaine sur le nucléaire nord-coréen. Alors que le secrétaire d'État Mike Pompeo parlait de négociations productives, Pyongyang se dit déçu par leurs échanges. Les États-Unis et une nouvelle conséquence des sanctions américaines contre l'Iran. Une nouvelle entreprise française quitte le pays, le numéro 3 mondial du transport maritime par conteneur. On verra pourquoi ces sanctions font si peur. L'appel à la paix du pape François à Bari. Avec les patriarches du Moyen-Orient, il a lancé un appel à la paix ce matin. 14 jours sans lumière du jour, 12 enfants sont toujours bloqués dans une grotte en Thaïlande où la population essaie d'aider comme elle peut. Et puis on ira au Festival d'Avignon où l'adaptation de Sénèque par Thomas Joly a de quoi laisser bouche bée. Après les mots rassurants des États-Unis, le camouflet nord-coréen sur la question du nucléaire. Alors que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo évoquait une discussion productive après sa rencontre avec le bras droit de Kim Jong-un ce matin, Pyongyang qualifie au contraire de regrettable l'attitude américaine et affirme ne pas faire confiance à Donald Trump. Une réponse du régime qui jette un sérieux doute, un de plus, sur la réelle volonté de Kim Jong-un de renoncer à l'arme atomique. À Séoul, Frédéric Ojardias.
La Corée du Nord a retrouvé la rhétorique agressive qu'elle avait mise en sourdine ces derniers mois. Les États-Unis font des demandes de dénucléarisation unilatérale et digne de gangster, accuse un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par la presse officielle. Le régime qualifie aussi de très décevant les pourparlers avec le secrétaire d'État Mike Pompeo et il rejette les exigences américaines de démantèlement complet, vérifiable et irréversible. Il demande à la place une dénucléarisation par étapes et synchronisée, sans rentrer dans les détails. Ces critiques nord-coréennes confirment le scepticisme des analystes à Séoul qui estiment que la Corée du Nord n'a jamais vraiment eu l'intention de renoncer au nucléaire. Elles contredisent aussi les déclarations de Mike Pompeo. Au moment de reprendre son avion, le chef de la diplomatie américaine a en effet assuré que ces deux jours de discussions à Pyongyang ont été productifs et que d'importants progrès ont été accomplis. Au contraire de ses deux précédentes visites, Mike Pompeo n'a pas rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, ce qui peut être vu comme un signe de dégradation des relations entre les deux pays. Pompeo a cependant reconnu que beaucoup de travail restait à faire, une litote, alors que Kim Jong-un semble chercher à faire traîner les discussions et à gagner du temps.
À Séoul, Frédéric Ojardias pour France Culture. Après Total et PSA, c'est au tour du groupe français CMA-CGM de quitter l'Iran. Le PDG de l'entreprise de transport maritime l'a annoncé aujourd'hui. Pas peur, dit-il, des sanctions américaines. Il y a deux mois, Donald Trump annonçait que les États-Unis se retiraient de l'accord nucléaire avec l'Iran et qu'il rétablissait des sanctions contre le pays et contre toutes les entreprises ayant des liens avec la République islamique. Et la menace fonctionne puisque les sociétés européennes préfère perdre le marché iranien plutôt que de risquer la sanction, explique Fereydoun Kavandé. Il est spécialiste de l'économie iranienne.
Les entreprises européennes ainsi que les grandes banques veulent travailler avec le dollar. Et si ces entreprises ou ces banques coopèrent avec l'Iran, ensuite pour elles, travailler avec le dollar deviendrait très très compliqué. Je pense que d'ailleurs les autorités iraniennes le savent parfaitement. Elles espèrent pouvoir seulement travailler avec les petites et les moyennes entreprises européennes, celles qui n'ont pas d'intérêt sur le marché américain et qui ne travaillent pas avec le dollar. Et dans l'état actuel des choses, les Iraniens, la République islamique ne peut qu'espérer de cette situation, c'est-à-dire attirer les entreprises petites et moyennes. Donc on en est là, mais on va au-delà de ces questions parce que à partir du mois de novembre, donc les pays doivent cesser d'acheter le pétrole iranien. On peut dire avec quasi certitude que l'Europe va appliquer cette décision, c'est-à-dire les Européens ne vont pas acheter du pétrole iranien. Donc la situation est particulièrement grave pour la République islamique dans le domaine pétrolier, comme d'ailleurs dans le domaine non pétrolier, c'est-à-dire les investissements et le commerce.
On se dirige en fait vers la fin de l'accord nucléaire. Les États-Unis en sont sortis. L'Iran va pas pouvoir y rester non plus à ce rythme-là.
Moi, personnellement, je pense qu'il serait extrêmement difficile de préserver cet accord sans les États-Unis. Et d'ailleurs, en Iran, même, de plus en plus, il y a de voix, notamment de la part de la société civile, des universitaires, des journalistes, même certains courants politiques qui estiment que la seule solution pour l'Iran, c'est d'entrer en négociation directe avec les États-Unis. Mais nous savons qu'il y a le noyau dur du régime iranien, qui, pour ce noyau dur, l'hostilité à l'encontre des États-Unis, c'est un dogme fondateur de la République islamique, et par conséquent, les durs ne peuvent pas renoncer à cette hostilité. Et donc la situation est extrêmement compliquée. Mais effectivement, on peut dire que cet accord, à l'heure actuelle, est extrêmement fragile et il risque même de disparaître.
Fereydoun Kavand, spécialiste de l'économie iranienne, il était interrogé par Maïwenn Bordron pour France Culture. Nous voulons être une voix qui lutte contre l'homicide de l'indifférence. Le plaidoyer du pape François aujourd'hui en faveur des chrétiens d'Orient. Il recevait à Bari des patriarches chrétiens du Moyen-Orient venaient prôner le retour des réfugiés syriens dans leur pays et qui ont lancé tous ensemble un appel à la paix, Marie Duhamel.
Un chant arabe porté par le vent au bord de la mer Adriatique. Ils ont tous prié dans leur langue vers cet Orient splendide où une dense couche de ténèbres s'est épaissie ces dernières années et le pape énumère ces menaces qui leur sont communes. Guerre, destruction, occupation des terres, fondamentalisme, migration forcée. Syriaques, grecs orthodoxes, chaldéens ou coptes se sont unis pour exprimer leur proximité aux chrétiens en souffrance. Ils se sont unis pour être la voix de ceux qui n'ont plus que leurs larmes à ravaler. Au Moyen-Orient, les chrétiens représentaient 20% de la population. Il y a un siècle, ils ne sont plus que 4%. Ensemble, ils ont lâché des colombes vers le ciel. Une prière pour le retour de la paix et avec elle le retour chez eux des réfugiés, car il en va de leur salut dans la région, berceau du christianisme, région où se trouvent les racines même de notre âme, a dit le pape. Eux qui ne disposent d'aucun moyen de pression, politique, économique, militaire, ils prient pour que ceux qui piétinent les petits, les blessés, pour plus de pouvoir ou de richesse, se mettent enfin résolument au service de la paix, qui ne se fait pas avec des murs ou des coups de force, mais par l'écoute et le dialogue. Après 3 heures de discussion à huis clos, François, entouré des patriarches, n'a épargné personne, dénonçant la domination de vérités de parti sur l'espérance des gens, les oppositions obstinées, l'utilisation du Moyen-Orient à des profits étrangers à la région, les silences complices. Nous voulons être une voix qui lutte contre l'indifférence qui tue.
Marie Duhamel, correspondante en Italie pour France Culture. Le pape qui a aussi une pensée pour la région de Deraa en Syrie, après l'accord entre le gouvernement syrien et les rebelles de cette région du sud du pays. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu alors que le régime mène une offensive très violente dans la zone depuis près d'un mois, forçant près de 325 000 personnes à partir de chez elles. Au Japon, le bilan s'alourdit après les pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud et l'ouest du pays depuis plusieurs jours. 30 personnes au moins sont mortes, prises au piège par les crues, les glissements de terrain et les inondations. Le Japon, où un séisme de magnitude 5,9 a été ressenti en début d'après-midi autour de Tokyo. Aucun dégât pour le moment et aucun risque de tsunami. Cela fait 14 jours qu'ils sont sous terre. En Thaïlande, 12 enfants et leur entraîneur de football sont toujours coincés dans une grotte, pris au piège par la mousson. Hier, ils ont pu faire passer des lettres pour rassurer leurs proches. Mais les pluies attendues d'ici quelques jours rendent de plus en plus urgente l'opération de secours. Sur place, l'envoyé spécial de France Culture, Mathieu Mondoloni.
Ils sont des milliers à s'activer ici pour aider les centaines de secouristes thaïlandais, mais aussi les équipes de spécialistes venus du monde entier. Sous sa tente, Rungsi distribue de l'eau et de la nourriture à tous ceux qui le lui demandent. Il est venu de Sisaket à 1500 km de là pour aider comme il le peut.
Je me sens triste quand je pense aux enfants et à leurs conditions de vie. Mais je suis si fier d'être né en Thaïlande et de pouvoir aider mon pays. Je vais continuer à faire ça tous les jours et je ne rentrerai pas chez moi tant que les enfants ne seront pas sortis. Il faut leur donner à boire et à manger, mais pas seulement aux enfants, aussi à tous les secouristes.
Ils gardent le sourire et les pieds dans la boue, une boue causée par les 19 pompes qui déversent inlassablement des millions de litres d'eau depuis 14 jours, avec pour objectif de faire baisser l'eau qui se trouve dans la cavité où sont les enfants et leur entraîneur. Les autorités craignent désormais la pluie, cette pluie attendue ces prochains jours et qui pourrait obliger les secours à une évacuation d'urgence à laquelle ils ont du mal à se résoudre.
Mathieu Mondoloni pour France Culture. En Somalie, un attentat contre le ministère de la Sécurité a fait 5 morts et plus de 20 blessés ce matin dans la capitale Mogadiscio. Une double explosion suivie d'une fusillade revendiquée par les rebelles Chebab. 10 personnes sont mortes calcinées dans leur maison en République démocratique du Congo suite à des affrontements entre 3 ethnies dans l'est du pays. Les victimes étaient toutes des déplacés qui fuyaient les violences. À Nantes, la famille d'Aboubacar Fofana, le jeune homme de 22 ans tué mardi dans le quartier de Breil, va se porter partie civile. Leur avocat l'annonce aujourd'hui, et ce dans un souci de connaître la vérité sur la mort de leur fils abattu par un policier. Le fonctionnaire de police qui a hier changé sa version des faits, après avoir affirmé qu'il avait tiré par légitime défense, il assure maintenant que c'était un accident. Après cette annonce, de nouvelles violences ont éclaté cette nuit pour la 4e fois depuis mardi. Il pourrait ne pas y avoir de procès dans l'affaire Sarah Halimi, cette retraitée de confession juive morte défenestrée en avril dernier. Selon les informations du Parisien, une nouvelle expertise psychiatrique conclut que le meurtrier présumé n'était pas responsable de ses actes à l'époque des faits. Si les juges d'instruction décident de suivre l'avis des experts, Kobili Traoré, c'est son nom, n'aura pas de procès. C'est avec une pièce aussi spectaculaire que terrifiante que le Festival d'Avignon s'est ouvert hier soir dans la cour d'honneur. Une adaptation très attendue de Thieste de Sénèque, mise en scène par Thomas Joly, pour qui, semble-t-il, le théâtre se vit comme un spectacle de rock. C'est en tout cas l'impression que cela vous a laissé, Joël Gaillot.
On dira ce qu'on voudra, que Thomas Joly exagère, qu'il inonde son spectacle de musique, qu'il le sature d'effets spéciaux, on fait un concert rock et transforme la scène en plateau de tournage de films de science-fiction. Tout cela est vrai et c'est tant mieux. Car c'est grâce à tout cela que nous parvient la pièce de Sénèque et ce qu'elle a à dire laisse, c'est un euphémisme, bouche bée. Cette tragédie, c'est l'histoire de deux frères, Thieste et Atrée. Ils se disputent le trône d'Argos et se le disputent au point que le second assassine les fils du premier, les découpe en morceaux, les cuisine et les offre en repas. Pas à son frère qui ne se doute de rien. Dans cette pièce terrifiante, ce n'est pas juste la fraternité qui est démantelée, c'est l'espoir d'un futur qui s'effondre sur lui-même. Qui sont ces hommes capables de sacrifier leurs enfants à l'aune de la vengeance? Il n'y a pas à regarder bien loin pour voir aujourd'hui où gît une jeunesse tombée sous les coups des adultes. Aussi, Thomas Joly, metteur en scène de cette barbarie, n'a pas eu besoin de changer une virgule aux phrases de Sénèque. Il en respecte la puissance classique et la profération des comédiens a lieu dans les règles de l'art. Jean Villard ne rougirait pas du spectacle. Par contre, l'artiste, qui n'a pas 40 ans, fait souffler dans la cour d'honneur du Palais des Papes le vent du renouvellement. Oui, on peut mettre en scène le théâtre à coups de lumière découpée au laser, d'acteurs revêtus d'habits de métal, de monologues râpés face publique, d'appels du pied aux films d'anticipation. Oui, on peut draper le théâtre antique de références esthétiques nées au XXe siècle et le propulser ainsi vers le XXIe. Il en sort étoffé, vivant, convulsif, hystérique, jouissif, attractif. Ce qui fait de lui, pour conclure, un théâtre populaire. Et ça, c'est tout, sauf un défaut.
Joël Gaillot à Avignon pour France Culture.
L'un des premiers bénéfices de l'accord obtenu par la médiation de la Ligue arabe sera de faire taire le chant des armes. En signe de bonne volonté, le Hezbollah a dépêché sa filiale de...
Et puis, c'est avec la voix de Christophe Lurie que nous terminons ce journal à un reportage de mai 2008. Christophe Lurie, dont nous avons appris le décès jeudi dernier, après avoir lutté avec courage contre le cancer. Christophe Lurie avait 55 ans, il avait été grand reporter à France Info, avant de devenir correspondant de Radio France au Liban, puis de rejoindre l'équipe de France Bleu Provence. La direction de la rédaction de France Culture présente à sa famille et à ses proches ses condoléances. La météo de la soirée calme étant encore chaud partout, sauf quelques gouttes prévues sur le Pays Basque et des risques d'averses sur les Alpes. Demain, il va faire encore très chaud, plus de 20 degrés partout dès 8h du matin, jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest.